Vous écoutez, on lit pour vous.
16 novembre, Journée internationale pour la tolérance. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNESCO. La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Cette décision faisait suite à l'adoption d'une déclaration de principe sur la tolérance par les États membres de l'UNESCO le 16 novembre 1995. Ils y affirment notamment que la tolérance n'est ni complaisance ni indifférence. C'est le respect et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. La tolérance est la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Les peuples se caractérisent naturellement par leur diversité. Seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans chaque région du globe. Notre organisation œuvre ainsi au quotidien à défendre et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique, la diversité des savoirs, notamment autochtones, pour que toutes ces perspectives et tous ces regards sur le monde puissent ouvrir, par le dialogue et par l'échange, de nouveaux horizons à l'humanité, dit Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Prix UNESCO Madanjit Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. En 1995, pour marquer l'année des Nations Unies pour la tolérance et le 125e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, l'UNESCO a créé un prix pour la promotion de la tolérance et de la non-violence, le prix UNESCO Madanjit Singh. Ce prix récompense des activités significatives dans les domaines scientifiques, artistiques, culturels ou de la communication visant à promouvoir un esprit de tolérance et de non-violence. La création du prix a été inspirée par les idéaux de la Constitution de l'UNESCO qui proclame que la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. La tolérance est la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Les peuples se caractérisent naturellement par leur diversité. Seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans chaque région du globe. En reconnaissance de l'engagement de toute une vie en faveur de l'harmonie communautaire et de la paix, le prix porte le nom de son bienfaiteur, Madanjit Singh, qui était ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, artiste, écrivain et diplomate indien. Doté d'un montant de 100 000 $ des États-Unis, le prix est décerné tous les 2 ans lors d'une cérémonie officielle à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, le 16 novembre. Madanjit Singh est né le 16 avril 1924 à Lahore, au Pakistan. Il est mondialement connu pour ses livres sur l'art et sur d'autres thèmes, étroitement liés aux programmes, principes et aux idéaux de l'UNESCO. Il a été ambassadeur de l'Inde en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. En 1995, en reconnaissance de son dévouement aux grandes causes que sont la paix et l'entente collective, le Conseil exécutif de l'UNESCO a créé le prix biennal, le prix UNESCO Madanjit Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. Cette décision a été prise lors de réunions à Paris et à Fès, entre le 16 mai et le 4 juin, afin de commémorer le 125e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. En 2000, Madanjit Singh a créé la South Asia Foundation, SAF, dans le but de promouvoir le développement durable, culturel, éducatif et économique. En reconnaissance de cette générosité et de ses efforts constants à promouvoir ses nobles objectifs, qui sont aussi ceux de l'UNESCO, Singh a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO le 16 novembre 2000. L'engagement personnel de Madanjit Singh à enrichir la culture, la compréhension du dialogue mutuel et de la paix ont été une grande source d'inspiration pour des gens de différents pays, de différentes cultures et de différentes religions, a déclaré Koichira Matsuura, ancien directeur général de l'UNESCO. Le diplomate, l'artiste, l'écrivain et la figure publique d'exception, Madanjit Singh est décédé le 6 janvier 2013. L'UNESCO et ses ambassadeurs honoraires et de bonne volonté continueront de poursuivre la noble cause défendue par Madanjit Singh tout au long de sa vie. Redin, lauréat de la 14e édition. Le prix UNESCO Madanjit Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-violence 2025 a été décerné au RED Interpretes y Promotores Interculturales, REDIN, une organisation de la société civile, un réseau d'interprètes et de promoteurs interculturels d'Oaxaca, au Mexique. Fondée en 2019, REDIN offre des services de formation et de traduction aux personnes issues des communautés autochtones, privées de leurs droits fondamentaux. Le jury du prix UNESCO Madanjit Singh a recommandé le lauréat à la directrice générale de l'UNESCO, en reconnaissance de son travail de défense des droits humains et de soutien aux communautés autochtones dans divers secteurs. Le réseau REDIN a mis en œuvre 15 projets interculturels pour surmonter des défis sociaux et culturels au Mexique et aux États-Unis d'Amérique dans les domaines juridiques, médical et social. REDIN a également développé des modules et proposé des services de traduction et d'interprétation, notamment pour les migrants autochtones en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Californie, sur des questions liées à la justice sociale et à la santé. En apportant des compétences à 570 autorités municipales et jeunes autochtones, sur des problématiques telles que la violence à l'égard des femmes et l'autonomisation des jeunes, REDIN contribue non seulement à améliorer la justice sociale et économique et à réduire les inégalités, mais aussi à promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle au sein de communautés locales. Le Centre mondial du pluralisme a proposé la candidature du réseau pour ce prix UNESCO. C'était 16 novembre, Journée internationale pour la tolérance. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNESCO.
Retrouvez le goût de la cuisine locale et familiale québécoise. Un texte de Caroline Montpetit paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. On y mangeait des poissons d'eau douce du Québec, perches chaudes, dorées, qui abondent dans la région du lac Saint-Pierre, mais qu'on ne retrouve plus dans nos assiettes. Il y avait 250 pêcheurs autrefois dans la région du lac Saint-Pierre, il n'y en a plus que deux, relate-t-il. On se passait la recette de la soupe à la gourgane, typique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec bouillon de viande et orge. Et M. Lambert nous apprend que l'huile de tournesol est une invention des Iroquois d'Amérique du Nord. Curieusement, c'est au retour d'un séjour d'études de philosophie en France qu'il a redécouvert le goût de la cuisine familiale québécoise. « Je redécouvrais le goût de notre cuisine. C'est en allant ailleurs que l'on s'aperçoit de ce qu'on a de différent. On peut dire que la réimmersion a été complète. Après avoir tenu une auberge et un restaurant à la Maison de la Rivière, en bordure de la baie des AA, Michel Lambert s'est lancé dans la rédaction d'une série de 5 tomes sur l'histoire de la cuisine familiale du Québec, paru aux éditions Gide. Plus récemment, il signait le beau livre « L'érable et la perdrix, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments » en 2021, avec Elisabeth Cardin aux éditions Cardinal. La soupe de Marguerite Bourgeois. Ce qui l'intéresse, c'est la cuisine des chaumières, celle que cuisinaient nos grands-mères à base de produits régionaux. Si lui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa famille provient de la région de la Naudière. Et c'est d'elle que viendrait la recette de la soupe Lambert, un bouillon issu d'une pièce de bœuf qu'on faisait bouillir longtemps avec de l'oignon, qui nous arriverait directement de Nouvelle-France, selon ses sources, et que Marguerite Bourgeois aurait servi jadis aux filles du roi. Marguerite Bourgeois enseignait la cuisine aux filles du roi qui venaient de France pour se marier. Les filles du roi savaient coudre, mais elles ne savaient pas cuisiner parce qu'en France, elles mangeaient dans des cafétérias. La cuisine à laquelle Michel Lambert s'intéresse est peu servie dans les restaurants québécois. Elle a graduellement disparu des mémoires à partir des années 50, avec l'américanisation de la société québécoise et aussi avec le courant des cuisines du monde et de l'alimentation végétarienne. La soupe y occupait une place prépondérante. En France, autrefois, la soupe c'était le repas principal, relève-t-il. En Gaspésie, comme sur la côte nord, on appelle quiaude la soupe de poisson ou de coq qu'on cuisine avec du lait, des pommes de terre et des herbes. La quiaude ou la chiaude, ça vient du mot « chaudière », raconte-t-il, évoquant la prononciation normande du mot. Ça a fini par donner le mot « chowder » en anglais. La quiaude, qui se faisait évidemment avec de la morue, fraîche ou salée, du temps où elle abondait dans le golfe du Saint-Laurent. Michel Lambert relève en effet que les crustacés, crevettes, homards et pétoncles ont longtemps été considérés comme de la nourriture de pauvres en Gaspésie. « On jetait les crevettes parce que c'était de la nourriture de pauvres », dit-il. Les marins qui accompagnaient Jacques Cartier disaient qu'ils avaient ramassé du homard quand ils sont arrivés en Gaspésie. Ils se sont mis à manger du homard, mais c'était anecdotique. C'est entre autres lorsque la morue est venue à manquer que les pêcheurs désœuvrés se sont tournés notamment vers les homards, aidés en cela par de meilleurs modes de conservation et des interventions gouvernementales. Autre grand disparu de l'alimentation quotidienne des Québécois, les poissons d'eau douce. Brochets, dorés, achigans, masquinongés, barbottes, qui abondent dans les lacs du Québec, notamment au Grand Lac Saint-Pierre. Ces poissons, généralement absents des gros marchés d'alimentation, ont pourtant connu leurs heures de gloire dans les assiettes il n'y a pas si longtemps. Jusqu'au début du XXe siècle, le Lac Saint-Pierre était un grand fournisseur de poissons d'eau douce, au point que le train embarquait tous les jours une cargaison de poissons frais du Lac Saint-Pierre pour les amener à Montréal, à Ottawa et même jusqu'à Toronto. Dans les îles de Sorel, c'est le gibier qui a d'abord donné son nom à la fameuse gibelotte. La gibelotte, c'est un ragoût de gibier, raconte Michel Lambert. Le mot gibier, au XVIIe siècle, c'était tout ce qui est sauvagine, canard, oie. Au XIXe siècle, on partait de Montréal pour aller se promener dans les îles de Sorel à cheval et on allait manger chez Berthe Beauchemin, au chenal du Moine. Elle recevait chez elle et faisait de la gibelotte. Mais en 1916, une loi est passée au Canada interdisant de chasser et de servir du gibier. Alors, Berthe Beauchemin a remplacé le gibier par du poisson local, de la barbotte, dans sa gibelotte. Retrouver les fournisseurs locaux. Or, aujourd'hui, ça n'est pas dans les grands marchés d'alimentation, IGA ou métro, dont les intérêts ne sont pas locaux, que l'on retrouve les poissons d'eau douce du Québec. Ces marchés suivent leur propre logique industrielle et souhaitent faire affaire avec de gros fournisseurs. Ce sont eux qui contrôlent l'alimentation, qui fournissent les aliments d'un peu partout dans le monde. Là, ils commencent à se préoccuper de la nourriture locale parce qu'il commence à y avoir une révolte de la part des gens qui veulent manger local, remarque Michel Lambert. Pour trouver des poissons d'eau douce locaux, il faut aller dans les poissonneries, rappelle-t-il, voire leur passer une commande pour qu'elles demandent à un pêcheur d'aller en chercher. Pour payer moins cher les produits locaux, c'est vers les producteurs eux-mêmes qu'il faut se tourner, quitte à aller les voir à la campagne. Manger local en hiver au Québec, cela pose des défis. Les modes de conservation de nos ancêtres et des autochtones, c'était de saler, vinaigrer, sécher, fumer ou congeler. On habite le Nord. Si on veut manger des produits frais en hiver, il faut les faire venir d'ailleurs à coups de frais incroyables et de pollution mondiale, relève-t-il. Il aime par ailleurs citer les serres toundra de Normandin, dans sa région natale, où on produit des concombres en serre à longueur d'année, en récupérant la chaleur d'une usine de transformation du bois. Ils fournissent tous les IGA du Québec, dit-il. Il faut aussi faire preuve de créativité. Pour remplacer l'acidité du citron avec le poisson, par exemple, on peut utiliser un sirop d'atoka comme le faisaient les autochtones, suggère-t-il. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui s'intéressent à la cuisine locale et à son histoire. Les jeunes de 17 à 30 ans sont ceux qui m'interrogent le plus. Ils sont fiers de leurs racines. Ils découvrent l'exotisme à côté de chez eux, conclut Michel Lambert. Des plats québécois mémorables. Si vous connaissez une famille de pêcheurs dans la région de Salaberry de Valleyfield, vous aurez peut-être la chance de goûter au fish monaghan. Il s'agit d'un filet de perche chaude, frit dans du beurre, servi dans un pas à hot dog avec une garniture d'oignons et des rondelles de tomates. La région est également connue pour les grillades de Valleyfield, des tranches de flanc de porc non fumé et pour son mélange d'épices, de poivre et d'ail. La région de Rouyn-Noranda a accueilli beaucoup d'immigrants d'Europe de l'Est. Ceux qui sont restés ont popularisé des charcuteries dont la fameuse kielbasa, un saucisson de porc qu'on mange aussi en soupe avec du lait et du chou. Au Témiscamingue, une bonne partie de la vie des travailleurs se déroulait sur des bateaux qui transportaient le bois couché sur le lac qui a donné son nom à la région. Dans le bateau-restaurant qui nourrissait les ouvriers, on cuisinait des soupes faites avec des poissons locaux ou de la volaille sauvage, de la perdrix par exemple, dans lesquelles on trempait de longues pâtes alimentaires. C'est devenu une spécialité de la région, dit Michel Lambert. L'anguille, très abondante dans le fleuve Saint-Laurent, entre Lévis et Kamouraska, était un poisson si prisé en Nouvelle-France que c'était devenu une monnaie d'échange, raconte-t-il. On pouvait apporter nos anguilles au marché de Québec pour les échanger contre de la farine, par exemple. Les stocks d'anguilles ont chuté au Québec dans les années 60 avec la construction de la route qui longe le fleuve vers l'île d'Orléans. Mais le poisson demeure très prisé en Asie et en Allemagne. On associe peu la région du Saguenay au saumon. Pourtant, Michel Lambert garde de Sainte-Rose-du-Nord une recette mémorable. Le saumon poché dans du lait, auquel on ajoute de la farine et du persil de mer, qu'on ramasse au bord de la grève. Les pâtes que l'on mange aujourd'hui portent généralement des noms italiens. Pourtant, on faisait en Nouvelle-France des pâtes alimentaires qu'on roulait au rouleau et qu'on coupait en fines lanières. Michel Lambert a relevé au Québec plusieurs noms différents désignant ces pâtes de fabrication artisanale. Dans la région de Charlevoix, on appelait ça des catalognes, dit-il. Dans la région de l'Outaouais, on appelait ça des rallonges. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on appelait ça du riz de pâte. Mais ce sont les Anglais qui ont importé ici les grands-pères. On en faisait des galettes à la cuillère, puis on les mettait sur un ragoût ou dans un sirop. En Normandie, on faisait la même chose, mais on appelait ça des échaudés. C'était « Retrouver le goût de la cuisine locale et familiale québécoise », un texte de Caroline Montpetit, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.
Prix Nobel de médecine. Un trio dévoile les gardiens invisibles de notre équilibre immunitaire. Un texte de Laurie Henry, paru le 8 octobre 2025 dans Science et Vie. Le système immunitaire agit comme une force de défense redoutable, capable d'éliminer virus, bactéries ou cellules cancéreuses. Mais ce mécanisme de surveillance produit aussi, par simple hasard génétique, des cellules susceptibles de s'attaquer au corps qu'elles sont censées protéger. Longtemps, les chercheurs ont pensé que ces cellules dangereuses étaient entièrement éliminées dans le thymus, un organe clé de la maturation des lymphocytes T. Pourtant, cette explication restait incomplète. Le prix Nobel de médecine 2025 attribué à Shimon Sakaguchi, Université d'Osaka, Mary E. Brunkov, Institute for Systems Biology, Seattle, et Fred Ramsdell, Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, couronne la découverte de cellules T régulatrices, véritables gardiens de l'équilibre immunitaire. Leurs travaux, publiés entre 1995 et 2003, ont permis d'identifier le rôle central du gène FOXP3 et de comprendre comment le corps évite de s'autodétruire. Une faille dans le système de tolérance immunitaire. Depuis les années 1980, les immunologistes s'accordaient à penser que la tolérance immunitaire, la capacité du corps à ne pas s'attaquer lui-même, était principalement assurée par le thymus. Cet organe, situé dans la poitrine, est essentiel à la maturation des lymphocytes T. Les cellules T susceptibles de reconnaître les protéines du corps comme des menaces devaient, en principe, être éliminées au cours de leur maturation. Ce processus, appelé tolérance centrale, était considéré comme suffisant pour prévenir les maladies auto-immunes. Mais cette théorie ne tenait pas face aux faits cliniques. Certaines cellules autoréactives échappaient à l'élimination thymique et circulaient dans l'organisme. Cela laissait supposer qu'un mécanisme complémentaire intervenait pour maintenir l'équilibre immunitaire. En 1995, Shimon Sakaguchi, immunologiste à l'Université d'Osaka, publie une étude qui va bouleverser la compréhension du phénomène. Il identifie un sous-type de cellules T porteuses du marqueur CD25 capables de supprimer les réponses auto-immunes, les cellules T régulatrices ou T-regs. Ces cellules représentent moins de 2% des lymphocytes T, mais ont une fonction critique. Elles désactivent ou inhibent les lymphocytes T qui menaceraient les tissus sains. Leur absence ou leur dysfonctionnement peut provoquer des maladies auto-immunes graves. Sakaguchi démontre cette fonction en retirant le thymus à des souriceaux, explique de Gwargin. Ceux-ci développent des inflammations multi-organes. En injectant des T-regs, il parvient à restaurer un équilibre. Cette tolérance périphérique, complémentaire à celle du thymus, devient un nouveau pilier de l'immunologie moderne. Le gène FOXP3 au cœur du contrôle immunitaire. Alors que Sakaguchi révélait le rôle des cellules T régulatrices, deux chercheurs américains exploraient un autre mystère. Mary E. Brunkov, biologiste moléculaire à l'Institute for Systems Biology de Seattle, et Fred Ramsdell, immunologiste chez Sonoma Biotherapeutics à San Francisco, étudiaient une étrange pathologie auto-immune chez la souris, la maladie Scurvy. Les souris atteintes développaient de sévères inflammations et mouraient précocement. Leur maladie ressemblait à des formes humaines rares d'auto-immunité sévère. En 2001, Brunkov identifie le gène en cause, FOXP3, situé sur le chromosome X, explique la BBC. Cette mutation génétique empêche la régulation correcte des réponses immunitaires. Peu après, Ramsdell montre que des mutations similaires chez l'humain sont responsables du syndrome IPEX, Immune Dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked, une maladie infantile grave et souvent mortelle. Les enfants atteints développent rapidement des atteintes multiviscérales, confirmant le rôle essentiel de FOXP3 dans la tolérance immunitaire. Ce gène s'avère être le facteur de transcription maître qui commande le développement et le fonctionnement des cellules T régulatrices. Il n'agit pas comme un interrupteur unique, mais plutôt comme un chef d'orchestre coordonnant des dizaines de gènes pour conférer à ces cellules leurs propriétés suppressives. Sans FOXP3, les cellules T régulatrices ne se forment pas ou perdent leur capacité à contrôler les autres lymphocytes. L'identification de ce gène a été un tournant méthodologique. Elle a permis de détecter, isoler et cultiver les T-regs en laboratoire. Pour la première fois, les scientifiques disposaient d'un marqueur moléculaire fiable pour étudier cette population cellulaire. Le lien entre dérégulation génétique et maladie auto-immune devenait tangible, ouvrant la voie à une immunologie translationnelle centrée sur la réparation des freins immunitaires. Immunité, cancer et transplantation. Des applications multiples. Les travaux sur les cellules T régulatrices n'ont pas seulement enrichi la compréhension fondamentale du système immunitaire. Ils ont transformé la manière dont la médecine envisage certaines pathologies complexes. L'un des domaines les plus prometteurs est celui des maladies auto-immunes telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques. Dans ces cas, on observe souvent un déficit en T-regs ou un dysfonctionnement de leur activité suppressive. Des essais cliniques visent aujourd'hui à renforcer le nombre ou la fonction des T-regs chez les patients en utilisant des molécules biologiques, des cellules modifiées ex vivo, voire des thérapies géniques ciblées sur FOXP3. Dans certains essais de phase 1 et 2, des patients reçoivent des T-regs cultivés en laboratoire et réinjectés dans le but de calmer l'auto-agression sans recourir à une immunosuppression générale. À l'inverse, en cancérologie, le rôle des T-regs se révèle plus ambigu. De nombreuses tumeurs exploitent ces cellules pour se protéger. En augmentant leur présence dans l'environnement tumoral, elles bloquent l'activité des cellules immunitaires capables de les attaquer. Les chercheurs cherchent donc à neutraliser les T-rex localement sans affecter leurs fonctions systémiques. Cette stratégie est explorée notamment dans les mélanomes, cancers du poumon et de l'ovaire. Enfin, en transplantation d'organes, les T-rex pourraient permettre de réduire les doses de médicaments immunosuppresseurs en favorisant une tolérance spécifique au greffon. Des essais sur le rein et le foie sont en cours, avec des résultats encourageants. Une révolution encore en cours dans l'immunologie clinique. Si la découverte des cellules T régulatrices a profondément modifié la compréhension du système immunitaire, leur exploitation thérapeutique reste un défi. Le professeur Adrian Adey, King's College London, souligne que « nous ne savons pas encore tout des T-rex, ni comment les manipuler de manière routinière en clinique. » En effet, leur faible nombre dans le sang, leur sensibilité aux signaux de l'environnement et leur plasticité posent des obstacles techniques et biologiques importants. Des études ont montré que, dans certaines conditions inflammatoires, les T-rex peuvent perdre leur identité et se transformer en cellules pro-inflammatoires. Comprendre les facteurs de stabilité du phénotype FOXP3 devient donc crucial pour éviter des effets inverses à ceux recherchés. Par ailleurs, tous les T-rex ne sont pas identiques. Des sous-populations spécialisées dans différents tissus, intestins, peau, poumons, présentent des caractéristiques propres. Cela suggère la nécessité de cibler ou produire des T-rex tissulaires spécifiques en fonction des pathologies. La thérapie devra donc être personnalisée, basée sur des profils immunologiques précis. Enfin, la recherche explore des combinaisons. Intégrer des T-rex modifiés à des traitements standards ou les associer à des biothérapies ciblées. Des biotechnologies comme CRISPR pourraient permettre d'augmenter l'efficacité ou la durée de vie des T-rex injectés. Tracy Hussell, immunologiste à l'Université de Manchester, note pour The Conversation que cette approche pourrait redéfinir la médecine du futur. Il ne s'agit plus seulement de stimuler ou bloquer l'immunité, mais de la rééquilibrer intelligemment. Ainsi, les travaux de Sakaguchi, Brunkov et Ramsdell continuent d'inspirer une génération de chercheurs à la frontière entre biologie fondamentale et médecine personnalisée. C'était Prix Nobel de médecine. Un trio dévoile les gardiens invisibles de notre équilibre immunitaire. Un texte de Laurie Henry, paru le 8 octobre 2025 dans Science et Vie.